Ainsi, tout en écoutant la conversation fluide de cet universitaire intelligent et cultivé, Martin revoyait son passé. Il revoyait le jeune voyou qu'il avait été, avec son chapeau Stetson à bord plat, son veston croisé coupé au carré, sa démarche de caïd et ses airs de dur à cuire insolent. Il ne se cachait pas la vérité. À un moment de sa vie, il avait été un vulgaire petit voyou, un chef de bande qui donnait du fil à retordre à la police et terrorisait les honnêtes ménagères. Mais ses idéaux avaient changé. En regardant autour de lui tous ces beaux messieurs et toutes ces belles dames, en se regardant lui-même évoluer dans cette atmosphère cultivée et raffinée, il croyait apercevoir par instant le fantôme de sa jeunesse traversant le salon, avec son Stetson, son veston croisé, en roulant des mécaniques. Puis, il voyait le petit voyou se métamorphoser pour devenir le Martin Eden d'aujourd'hui, en grande conversation avec un authentique professeur d'université. Au fond, il n'avait pas encore trouvé sa vraie place. Il s'était toujours adapté partout et avait toujours su se faire aimer et respecter, tant pour son aptitude au travail et au jeu, que pour sa bonne volonté, son aplomb et sa trempe. Mais il n'avait jamais pris racine. Il s'était acclimaté suffisamment pour satisfaire les autres, mais non pour se satisfaire lui-même. Il avait constamment été tourmenté par une inquiétude vague, un appel lointain qu'il avait détourné de sa route à un moment ou à un autre, jusqu'au jour où il avait découvert les livres, l'art et l'amour. Et tel il était aujourd'hui, dans cette nouvelle peau, lui, le seul de tous ses compagnons d'aventure, à s'être rendu digne d'entrer dans la demeure des morses. Mais ses pensées et ses visions ne l'empêchaient pas de suivre attentivement le professeur Caldwell, dont le champ de connaissances lui semblait illimité. De temps en temps, la conversation lui montrait les lacunes de son instruction, dévoilait des pans entiers de culture générale qui lui étaient étrangers. Cependant, grâce à son Spencer, il vit qu'il possédait déjà les fondations et les murs de la maison du savoir. L'ameublement n'était plus qu'une question de temps. Et alors, gare à lui, se dit-il, paré à virer Moussaillon. Il buvait les paroles du professeur, se prosternait à ses pieds, mais sans jamais se départir de son sens critique, car par instant, il percevait des faiblesses de jugement chez le grand homme et redevenait alors son égal. Root passa près d'eux une seconde fois, juste au moment où Martin prenait la parole. « Je vais vous dire où vous vous trompez, » fit-il, « ou plutôt quelle est la faille de votre analyse. Vous ignorez la biologie, elle n'a aucune place dans votre schéma de pensée. Je parle de la vraie biologie interprétative, celle qui se base sur des expériences de laboratoire, avec des éprouvettes, du concret, pour expliquer l'esthétique et la sociologie. » Root était consternée. Elle avait suivi deux cours du professeur Caldwell et le considérait comme le gardien du temple de toutes les vérités. « J'ai du mal à vous suivre. » dit-il dubitatif. Martin n'était pas très sûr lui-même de l'avoir suivi. « Eh bien, je vais tenter de m'expliquer, » reprit-il. « J'ai lu quelque part, à propos de l'égyptologie, qu'il était impossible de comprendre l'art des Égyptiens sans étudier préalablement leur mode de vie. » « C'est très juste, » approuva le professeur. « Et il me semble que le mode de vie, à son tour, ne peut pas être étudié sans une connaissance préalable de ce qui constitue la vie. Comment pourrait-on comprendre les lois, les institutions, la religion et les coutumes d'un peuple, sans comprendre non seulement la nature de ce peuple, mais la matière qui constitue les individus. La littérature est-elle moins humaine que l'architecture et la sculpture égyptienne? Y a-t-il quelque chose dans l'univers connu qui ne soit pas soumis à la loi de l'évolution? Oh, je sais, on a fait de grandes théories sur l'évolution des arts en eux-mêmes, mais selon moi, c'est trop mécanique. Le facteur humain est négligé. L'évolution des outils, de la harpe, de la musique, du chant, de la danse, a été très bien retracé, mais qu'en est-il de l'évolution de l'homme, du développement de son potentiel intrinsèque avant la fabrication du premier outil ou du premier instrument de musique? Voilà ce que vous ne prenez pas en considération et que j'appelle biologie, la biologie dans sa plus large extension. Je sais que je m'exprime mal, mais j'essaie de dégrossir une idée qui m'est venue en vous écoutant. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir suffisamment. Vous avez parlé vous-même des limites qui nous empêchent d'appréhender tous les facteurs à la fois. Eh bien justement, il me semble que vous négligez le facteur biologique, l'étoffe dont les arts sont faits, la trame et la chaîne de tous les actes, de tous les accomplissements de l'homme. À la stupéfaction de Root, le professeur ne rabroua pas Martin et lui répondit d'une façon qu'elle interpréta comme de l'indulgence pour la jeunesse de son contradicteur. Le professeur resta silencieux un instant, en jouant avec la chaînette de sa montre. « Savez-vous, dit-il enfin, que j'ai reçu la même critique un jour d'un très grand homme, un savant évolutionniste, Joseph Lecomte. Il est mort à présent, et je pensais être à l'abri de ses attaques, mais voilà que vous me prenez de nouveau en défaut. Sérieusement, c'est un aveu que je dois vous faire. Je pense qu'il y a du vrai dans vos objections, beaucoup de vrai même. Je suis trop classique, trop en retard sur l'actualité scientifique et les seules circonstances atténuantes que je m'accorde sont mon éducation et une certaine paresse naturelle qui m'a empêché de travailler la question. Me croirez-vous si je vous dis que je n'ai jamais mis les pieds dans un laboratoire de physique ou de chimie ? C'est pourtant vrai. Le comte avait raison, et vous aussi, monsieur Eden, dans une certaine mesure, en tout cas. Ruth entraîna Martin à l'écart sous un prétexte quelconque et lui chuchota. « Vous n'auriez pas dû monopoliser le professeur Caldwell de la sorte. Il y a peut-être d'autres gens qui veulent lui parler. » « Je plaide coupable, » répondit Martin avec contrition. « Mais j'ai réussi à le titiller, et il m'a tellement intéressé que je n'ai plus pensé aux autres. C'est l'intellectuel le plus distingué, le plus brillant que j'ai jamais rencontré. Autrefois, je m'imaginais que tous les gens qui étaient allés à l'université ou qui occupaient un rang élevé dans la société étaient aussi brillants et intelligents que lui. Il est une exception. Je ne vous le fais pas dire. À qui voulez-vous que je parle maintenant ? Oh, dites, confrontez-moi donc avec ce banquier-là. » Martin parla un quart d'heure avec lui, et Ruth n'eut qu'à se féliciter du comportement de son fiancé. Elle ne le vit ni rougir, ni s'emporter, et sa pondération la surprit. Mais la corporation des banquiers tomba au plus bas dans l'estime de Martin, et toute la soirée, il resta sous l'impression que le mot « banquier » était synonyme de 10 heures de platitude. Il trouva l'officier plus sympathique. C'était un beau jeune homme, simple, plein de santé, content d'occuper la place que sa naissance et la chance lui avaient octroyée. En apprenant qu'il avait derrière lui 2 années d'études universitaires, Martin se demanda avec perplexité où il les avait mises, mais enfin, il le trouva infiniment plus aimable que le redondant banquier. « Je n'ai rien contre les platitudes, » confia-t-il plus tard à Ruth, « mais ce qui me porte sur les nerfs, c'est la vanité complaisante avec laquelle elles sont proférées. Voyons, j'aurais pu lui raconter toute l'histoire de la réforme en moins de temps qu'il ne lui en a fallu pour m'expliquer que le parti travailliste avait fusionné avec les démocrates. Il tripote ses mots comme un joueur de poker professionnel tripote les cartes qu'on lui distribue. Un jour, je vous montrerai ce que j'entends par là. « Je suis désolée que vous ne l'aimiez pas, » répondit-elle. « C'est le poulain de M. Butler. M. Butler dit qu'il est sûr et honnête. Il l'appelle le Saint-Pierre de la banque, la pierre sur laquelle la finance bâtira son église. » « Eh bien, ça ne m'étonne pas. À en juger d'après le peu que j'ai entendu de lui, c'est tout à fait comme ça que je l'imagine. Seulement, je n'ai plus une très haute opinion de la profession bancaire. Vous ne m'en voulez pas de parler franchement ?»« Non, non, au contraire, c'est très intéressant. » « Bien sûr, bien sûr. C'est toujours intéressant de recueillir les premières impressions du barbare qui découvre la civilisation, n'est-ce pas ?»« Qu'avez-vous pensé de mes cousines ?»« Je les ai préférées aux autres femmes. Elles sont beaucoup plus plaisantes et beaucoup moins prétentieuses. Autrement dit, vous n'avez pas aimé les autres. » Il hocha la tête. « Cette sociologue n'est qu'un perroquet. Je vous assure que si vous pouviez passer sa cervelle au crible, vous n'y trouveriez pas une once d'originalité. Quant à la portraitiste, elle est parfaitement assommante. Elle ferait une excellente épouse pour notre banquier. Et la musicienne. Elle a peut-être des doigts agiles, une technique irréprochable, un phrasé enchanteur, mais elle ne connaît rien à la musique. « Comment ?» protesta Ruth. « Elle joue magnifiquement. » « Oh, en surface. Elle est très experte. » Mais elle n'a aucune idée de la signification profonde de son art. Je lui ai demandé ce que la musique représentait pour elle. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne. Eh bien, elle n'a pas su me répondre. Elle m'a simplement dit qu'elle l'adorait, que c'était le plus grand des arts, que c'était toute sa vie. « Vous les avez fait parler boutique ?» fit Ruth avec reproche. « Je l'avoue. S'ils sont aussi nuls sur leur spécialité, imaginez mon supplice si j'avais dû les écouter parler d'autres sujets. Voyez-vous, j'aurais cru que dans un milieu comme celui-ci, où l'on bénéficie de tous les avantages de la culture, il s'interrompit pour regarder le fantôme de sa jeunesse, en Stetson et veston croisé, traverser le salon en roulant des épaules. J'avais cru qu'ici, disais-je, tous les hommes et les femmes étaient brillants et pleins d'esprit. Mais aujourd'hui, je les tiens pour des sots et des fâcheux. À quelques exceptions près. Le professeur Caldwell, par exemple. Lui est différent. C'est un homme. Un vrai, dans toutes les fibres de sa peau, dans tous les atomes de sa matière grise. Le visage de Ruth s'éclaira. « Parlez-moi de lui, » dit-elle. « Pas de ses qualités, je les connais, mais plutôt de ce qui ne vous plaît pas en lui. Je suis curieuse de le savoir. » J'ai peur de m'attirer vos foudres. Martha hésita un instant comme par jeu. Si vous me disiez d'abord ce que vous en pensez, à moins que vous ne le trouviez parfait en tout. J'ai suivi deux de ses cours et je le connais depuis 2 ans. C'est pourquoi j'aimerais avoir votre première impression. Ma mauvaise impression, vous voulez dire? Eh bien, allons-y. Je pense qu'il a toutes les qualités que vous lui reconnaissez. En tout cas, c'est le plus beau spécimen d'intellectuel que j'ai rencontré. Mais il a une honte cachée. Oh, rien de sordide, non, non, ne vous méprenez pas. Il me fait l'effet d'un homme qui est allé au fond des choses et qui a tellement peur de ce qu'il a vu qu'il fait semblant d'être aveugle. Mais peut-être que je m'exprime mal. Disons ça autrement. Un homme qui a trouvé le chemin du temple secret, mais ne l'a pas suivi. Qui a entrevu le temple et a préféré se convaincre ensuite que ce n'était qu'un mirage. Ou alors un homme qui aurait pu faire de grandes choses, mais qui n'y a pas cru, et qui, en son fort intérieur, regrette de ne les avoir pas faites. Un homme qui a fait fi des récompenses promises à ses actes, mais qui en réalité les désirait de toute son âme, et qui pleure aujourd'hui les occasions perdues. Je ne le vois pas ainsi, et pour tout dire, j'ai du mal à vous comprendre. Ce n'est qu'une impression vague de ma part. Je n'ai aucune raison de penser cela, et il est très possible que je me trompe. Vous le connaissez certainement mieux que moi. Martin retira de cette soirée des impressions confuses et contradictoires, un mélange de désillusion, les personnes qu'il ambitionnait d'égaler volaient moins haut qu'il ne l'avait cru, et d'encouragement. Les sommets, étant moins élevés, ils étaient plus accessibles. Il s'estimait meilleur grimpeur que ces gens-là et considérait sans fausse modestie qu'il était déjà arrivé plus haut qu'eux, à l'exception bien sûr du professeur Caldwell. Il en savait plus long qu'eux sur la vie et les livres et se demandait à quoi leur servait leur éducation. Il ne se rendait pas compte qu'il était lui-même doté de facultés intellectuelles inhabituelles et ignorait encore que les individus capables de sonder les profondeurs de la pensée ne se trouvaient pas dans les salons de ce monde-là, mais naviguaient haut dans l'azur, tels des aigles solitaires survolant le bas monde et les grouillements de la vie grégaire.